Chapitre 55. National Igdir d'Obeyzit, Turquie. Derrière le barbelé, le mouton noir dévisageait avec curiosité le lieutenant de police, Mahir Bey. Le policier baissa les yeux le premier et inclina son Stetson sur son front. Le jeu aurait pu durer des heures. Ce mouton stupide n'avait rien d'autre à faire de sa journée et la compagnie était plutôt rare au beau milieu du désert. C'est d'ailleurs ce que le lieutenant recherchait. Un rendez-vous discret. Il n'avait qu'une confiance limitée en ce chef de meute azéri qui se faisait appeler Cortès et qui refusait de montrer son visage en public. Même si ce type disposait d'un important réseau d'amis au Kurdistan, d'un robinet à livres turcs inépuisables et d'une faculté à passer les frontières de pays ennemis comme d'autres traversent la rue. Cortès voulait le voir, lui avait-on laissé entendre. Cela tombait bien, lui aussi. C'est Mahir Bey qui avait fixé le lieu de rendez-vous, à mi-chemin sur la route Igdir d'Obeyzit. Cette interminable ligne droite goudronnée qui semblait avoir été déroulée au milieu de la plaine par un géant. Des moutons maigres broutaient l'herbe jaune. Quelques ânes cherchaient l'ombre des poteaux électriques faméliques. Les paysages semblaient délavés, ternes, comme fanés d'avoir été si longtemps oubliés par les hommes. Pas même une cabane de berger à des kilomètres à la ronde. Pas de témoins. Il n'aurait pas été plus tranquille sur la lune. Au Kurdistan, les policiers se déplaçaient en véhicules blindés. Deux condors, comme on les appelait ici, patientaient à une cinquantaine de mètres du lieutenant. Mahir Bey tira sur sa cigarette en contemplant l'Ararat. Bien entendu, ce Cortès était en retard. Faire mariner le chef de la police du Kurdistan devait faire partie du jeu. Pourtant, et c'était un euphémisme, Mahir Bey n'avait pas que cela à foutre. Il avait pour mission de faire régner l'ordre. Il pouvait compter pour cela sur 86 hommes et une quinzaine de condors. Plus deux carbonisés qui décoraient le parking du commissariat de Vannes. Faire régner l'ordre, pour un type pragmatique comme Mahir Bey, cela signifiait faire face à des consignes contradictoires. Officiellement, la politique était à la négociation avec les représentants kurdes. Pas de provocation. La Turquie devait montrer patte blanche à l'Union européenne. Les Kurdes, parqués dans des taudis en ville, étaient invités à retourner crever dans leur village natal. Faire le moins de vagues possible. Difficile au pays du déluge. Officieusement, on attendait aussi de lui qu'il mène une politique de fermeté pour éviter que des nids de terroristes ne refleurissent sur les flancs de l'Ararat, par exemple en pourrissant la vie des Kurdes par des barrages et des fouilles incessantes. Éviter aussi que les frontières ne soient ouvertes au trafic en tout genre, que la corruption ne gangrène le tout. Rien que ça. Il tira sur sa cigarette. Un nuage de poussière apparaissait à l'horizon, là où la route semblait s'enfoncer dans la terre, vers l'Iran. En prime, le contexte, cette semaine, était particulièrement tendu. Dans quelques jours se tenaient les élections municipales, au Kurdistan comme dans le reste du pays. Un vote libre et pacifié. Depuis près d'un siècle déjà, les élections étaient la principale vitrine démocratique de la République de Turquie. Un sacré bordel en perspective et une putain de pression sur ses épaules. Le nuage approchait. Cortès, sans doute. Mahir Bey jeta sa cigarette d'une pichenette avant d'écraser le mégot avec la semelle de sa botte. Il aima le geste, l'ambiance, les grands espaces. Il avait dû trop regarder de western quand il était gamin. Tous les collègues se foutaient de sa gueule avec son Stetson vissé sur sa tête. Le lieutenant aimait les responsabilités. Il sentait en revanche qu'il n'allait pas aimer le type devant lui. La BMW s'arrêta au milieu de la route sans même se garer. Cortès sortit et marcha vers le lieutenant. Un large turban noir dissimulait l'ensemble de son visage, à l'exception de ses yeux. Maladie de peau ou criminel fiché. L'homme était grand. Une ombre immense s'allongeait derrière lui, fine comme celle des poteaux électriques. Il lui tendit la main.
« Cela faisait longtemps que je souhaitais vous rencontrer, lieutenant Bey. »
Pour être franc, j'avais aussi prévu de vous dire ça. »
Le lieutenant Bey n'avait que des présomptions. Aucune preuve, et Cortès le savait. On avait retrouvé hier dans l'Arax 5 cadavres de filles, le visage rongé au vitriol. Impossible à identifier sans une enquête approfondie. Sauf que 5 jeunes Kurdes étaient portées disparues depuis 2 jours. D'après leurs proches, elles avaient répondu à une sorte de casting organisé par un milliardaire azéri, Parastu Khan. Elles étaient censées se rendre à son palais d'Ishak Pacha, au Nakhitchevan, sous la protection de Cortès. Cortès joua admirablement à l'imbécile devant les photos que lui tendait Mahir Bey. Il siffla.
« De sacrées bombes, lieutenant. On peut comprendre qu'elles aient quitté papa et maman pour tenter l'aventure ailleurs que dans ce cul-de-sac du monde. Disparues, vous me dites, toutes les cinq. Je n'ai jamais vu ces filles. Hélas pour moi. Mais à mon avis, si elles ont fui ensemble à Moscou, les Russes ne sont pas prêts de vous les rendre.
Maïr Bey encaissa. Il y avait aussi cette histoire de fillette enlevée sur le marché d'Igdir. La mère et quelques hommes de son campement étaient venus le voir au commissariat. La mère était hystérique. Elle aussi, bizarrement, accusait les Azéris du Nakhitchevan. Le reste était incompréhensible. Une histoire de torture, de secret dont la Kurde n'avait rien voulu dire. Maïr Bey avait fini par la foutre dehors. Cortés observa la photographie de la petite Aman, la gamine kurde, avec beaucoup moins d'attention.
Mignonne aussi, dans un autre genre. Mais je ne comprends rien à cette histoire, lieutenant. Quel secret pourrait bien connaître cette bergère kurde? Un secret qu'elle ne pourrait révéler que sous la torture.
Cortés leva avec mépris les yeux vers le Stetson du policier.
À ma connaissance, lieutenant Bey, lorsque l'armée enlève des civils kurdes, les emprisonne, les questionne, en particulier ceux qui vivent dans les montagnes de l'Ararat, nous sommes d'accord, lieutenant, ce n'est pas pour leur faire avouer l'emplacement de l'Arche de Noé.
Cortés éclata d'un rire un peu forcé.
Mais pour frapper au cœur. Ces bergers protègent les terroristes kurdes, les nourrissent, les logent, les arment. Ils frappent dans les villes de la plaine, puis se réfugient dans les montagnes. C'est une technique de guérilla vieille comme le monde.
Cortés rendit la photographie au lieutenant.
Si on ne peut pas attraper les terroristes, il faut faire payer ceux qui les protègent. C'est une méthode qui a fait ses preuves. Mais vous avez mieux à faire, lieutenant, je suppose, à 3 jours des élections.
Maïr Bey rangea la photographie et tira une nouvelle cigarette de son paquet.
Nous sommes dans le même camp, lieutenant,
reprit Cortés.
Il y a ce que peut faire la police, il y a ce que peut faire l'armée turque, il y a ce que peuvent faire des armées privées comme la mienne.
Maïr Bey souffla. La fumée de sa cigarette brouilla un bref instant le sommet de l'Ararat. Il n'était pas dupe, ce type se foutait de lui. Mais il était protégé, intouchable. Depuis toutes ces années, Maïr Bey avait appris à fermer sa gueule, à fumer en silence et à dissimuler ses idées noires sous son Stetson.
« Si vous entendez parler de quelque chose, »
ajouta le policier par pur principe. Le téléphone de Cortés sonna.
« Oh, excusez-moi, lieutenant. Un appel important que j'attendais. »
Il vérifia.
« Pour tout vous avouer, on m'appelle d'Italie. C'est dingue, non ? De Palerme, très exactement.